Merci. C'est vrai qu'on se sent une âme d'ado hein, quand on vient de passer ce moment. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils ont ouvert la porte. Et nous allons vous placer devant cette réalité. C'est que maintenant, eh bien, il reste encore un pas à faire. Tout à l'heure, ce récit qui est tiré des évangiles nous le rappelait. Il y a quelqu'un qui a osé le faire. Quelqu'un qui a osé revenir. Et je pense en particulier à ce partage que nous allons avoir maintenant, où nous avons dans ce récit une image de ce qui maintenant se déroule. C'est que tout ce que nous faisons est sous le regard de quelqu'un qui nous attend. Parce que l'image du Père, vous l'avez compris, c'est l'image d'un Dieu qui attend sans cesse, qui attend avec persévérance et qui est d'une compassion extraordinaire. Et ce regard, eh bien, c'est aussi le thème que je vais partager avec vous. Alors, si il y a un regard qui pèse sur nous, soyez rassurés. Ce n'est pas le regard d'un père fouettard. Ce n'est pas le regard d'un juge, d'un Dieu vengeur. C'est un regard de compréhension, d'amour. Le moment que je vais rappeler vous permettra de voir celui qui peut-être me rappelle le mieux. De quelle façon Dieu nous regarde cet après-midi les uns et les autres? Parce qu'il est capable de voir des choses auxquelles nous ne faisons plus attention. Dans l'évangile, en effet, à un moment donné, celui que je vais prendre en exemple, ça ne vous étonnera pas, c'est Jésus lui-même. Jésus se trouvait dans une synagogue. C'était souvent son habitude, puisque c'était là où le lieu se retrouvait des gens qui avaient la pensée de Dieu, qui avaient la pensée d'en parler, d'échanger sur Dieu. Et il se trouvait là, dans ce jour particulier où on avait coutume de penser à Dieu. Et en Israël, parmi les Juifs, ça s'appelait le sabbat. Alors, c'est un petit peu comme imaginer aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Alors, peut-être que vous avez eu une pensée un instant, dire, ah oui, tiens, c'est un jour, il faudrait se rappeler de ce qui a pu se passer à Pâques. Et vous êtes dit, c'est peut-être encore la meilleure façon d'accueillir d'accepter l'invitation de cette personne qui me dit, mais tu devrais venir avec moi. Peut-être que vous êtes dans cette situation. Vous trouvez dans une église évangélique le jour de Pâques. C'est pas mal, mais il y a plus important. C'est que Jésus s'y trouve aussi. Voici ce que nous dit d'ailleurs le récit de cette histoire dans une synagogue un jour de sabbat. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais, c'est curieux, dans les belles histoires, il y a toujours un mais quelque part. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. » On a fait des progrès depuis, vous avez remarqué? Si je vous dis « il y a 6 jours pour travailler », vous me dites de quel pays vous venez, vous? Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Voilà le récit. Voilà le cadre planté. Un jour de sabbat. En général, les synagogues en Israël étaient bien fréquentées, disons abondamment. Et j'imagine bien que cette synagogue, elle se remplissait. Les gens sont là, ils arrivent, ils prennent leur place. Vous savez, c'est un petit peu comme les synagogues, c'est un petit peu comme les églises évangéliques, hein, chacun a sa place. Non, c'est pas comme ça à Nantes. Moi, ça a toujours été mon bonheur en tant que pasteur. C'est que, à partir du moment où je commençais à connaître une église, quand je voyais une chaise vide, je disais, madame Untel, t'es pas là. Et là, la chaise 3 de rang plus loin, je dis, ah bah tiens, c'est monsieur Untel qui est pas là. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, on a tous nos habitudes, hein. Alors, ce jour-là, Jésus entre à son tour dans la synagogue. Et une chose m'interpelle tout de suite. Il regarde. Il regarde. Il regarde ceux qui sont là, il regarde peut-être au travers des visages. Vous savez, Jésus était d'une telle perspicacité et d'une telle connaissance de l'être humain que rien qu'en regardant un visage, il pouvait déjà y voir des quantités de choses. Tout un message. Et puis le texte me dit, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il l'a, allez, vous le dites avec moi, il l'a vit. Voilà pourquoi j'ai voulu parler du regard de Dieu, du regard de Jésus. Une femme courbée depuis 18 ans. Je dois vous avouer que le détail est intéressant, important. D'abord parce que ça me parle de la durée de la souffrance. Une maladie de 18 ans, vous imaginez ? 18 ans d'infirmité. Mais ça me parle aussi d'autre chose. Quand un événement se produit, encore aujourd'hui, dans les 24 heures, tout le monde en parle. Dans les 48 heures, tout le monde dit « j'ai compris ». Et dans les 72 heures, tout le monde dit « on sait comment on va maintenant trouver la solution ». Et puis après, le temps s'écoule. On n'en parle plus. On n'y fait plus attention. Alors imaginez 18 ans de maladie. Elle a beau venir tous les sabbats, c'est-à-dire toutes les semaines. Cette femme, plus personne ne la remarque. Ça fait 18 ans que c'est comme ça. C'est pas. Je crains entendre la petite voix tranquille de sagesse populaire. Ça fait 18 ans que ça dure, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Vous voyez pas que des fois on est un peu comme ça, hein? Quand on est entré dans un certain cycle de routine, de souffrance, le temps s'écoule, on se dit, bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Ça va pas changer pour ça. C'est pas parce que je suis venu ici dans ce lieu que ça va changer. Ça fait tellement longtemps que je souffre. Ça fait longtemps que plus personne, d'ailleurs, ne fait attention à moi. Et c'est là où, d'ailleurs, je voudrais dire la grande qualité de Jésus. C'est que le regard de Jésus voit ce que plus personne ne voit. Le regard de Jésus se pose sur ce qui n'a plus jamais attiré l'attention depuis longtemps. Courbé depuis 18 ans, Jésus regarde cette femme, et son regard, c'est pas le regard qui passe et qui se dit, oh là là, une femme comme ça, je préfère pas regarder trop longtemps. Ce n'est pas un regard qui passe. Ce n'est pas un regard qui s'enfuit de gêne. Parce que regardez bien les textes, lorsqu'il la vit, Jésus lui adresse la parole. Déjà, ça, c'est un petit peu impressionnant. C'est impressionnant parce que Jésus s'adresse à la personne dont personne n'a pensé à lui parler. Eh oui. Ah oui, il y a un homme qui va avoir un rôle important dans cette synagogue, on va en parler un peu plus loin, il est le chef de la synagogue. Vous savez, le chef de la synagogue, c'est un monsieur qui organise bien les choses, qui règle bien les choses, il s'est préoccupé de voir comment tout allait bien se passer, comment à chaque fois l'orateur prévu, ainsi de suite, tout est bien. Rien à lui dire, il fait son travail. Bon, peut-être que, au fond, la seule chose, c'est que lui, il n'a pas vu regardez cette femme. Mais Jésus va la voir. Il va la voir parce que là où les autres ne voient plus. Alors, je vais un instant me reporter à aujourd'hui. Vous savez que c'est curieux, mais notre monde est rempli de gens que plus personne ne voit. Dans nos grandes villes, dans nos ensembles de milliers de gens. Il y a des quantités de gens comme ça, que plus personne ne remarque, que plus personne ne voit. Et ils en sont tellement conscients qu'ils ont au fond d'eux-mêmes une image dévalorisée. Personne ne me remarque. Personne ne me voit. Combien de fois nous avons vu dans nos églises et dans nos rassemblements ce genre de situation? Je n'en citerai peut-être qu'un qui m'a toujours impressionné, mais je me rappelle la première fois pour être en train de d'annoncer l'évangile, comme je suis un peu cet après-midi, dans une assez grande ville, une ville moyenne, ça s'appelle Paris. Et je prêchais l'évangile depuis quelques instants, la réunion était bien commencée, et j'ai vu rentrer un homme. J'ai pas eu de mal à imaginer le nom que je pouvais lui donner. À Paris, on a un nom. Il y a des gens qu'on catalogue, vous savez, en fonction de leur apparence. À Paris, celui qui venait d'entrer, on appelle ça un clochard. Et je pouvais pas me tromper. Cet homme qui venait de rentrer, c'était le type même de ce qu'on appelle un clochard. Il est rentré tout seul. Il a regardé et s'est assis dans un endroit où il n'y avait pas trop de monde, tout seul dans son coin. Alors, j'avais une certaine habitude de voir ces gens-là rentrer. Et je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui va te demander de l'argent à la fin de la réunion. J'ai réfléchi comme d'habitude. Cet homme est resté pendant tout le temps de la réunion, il a écouté. Et à la fin de la réunion, j'ai fait ce que je vais faire tout à l'heure, j'allais à la porte et puis j'ai voulu saluer ceux qui étaient là, je me suis dit à un moment il va sortir, je vais le voir. Et il s'est approché effectivement, pas dans les premiers, plutôt dans les derniers. Et il est venu, je lui ai serré la main. Je me suis dit, ma femme s'inquiète pas, je me les laverai après. Je lui ai serré la main, et j'ai dit, bonjour monsieur, comment ça va? Je lui ai dit, ça y est, il va me demander quelque chose. Et rien. Je lui ai dit, ça c'est étonnant. Je lui ai dit, ça va? Vous n'avez pas besoin de quelque chose? Il m'a dit, non, j'avais besoin d'entendre, je me suis fait du bien cet après-midi. Oh là, je lui ai dit, mince, je suis pas tombé sur... Et vous avez besoin? Non, je vous remercie, j'ai pas besoin. Et ça, c'est impressionnant. Alors, je lui ai quand même dit, mais si vous voulez, je peux vous donner quand même un évangile. Hein. Je peux vous faire quelque chose, voilà. Et pas d'argent. C'est impressionnant, cet homme. Je me suis dit, il faut prier pour lui. Mais cet homme, il est revenu. Il n'a pas demandé d'argent. Son cœur a été travaillé par l'évangile. Et un jour, Dieu a fait grâce. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, vous ne reconnaîtriez plus la façon dont j'ai catalogué cet homme. Parce que c'est un homme qui a non seulement retrouvé un travail plus tard, qui a eu une habitation, une voiture, qui a été efficace dans son service pour Dieu, dans son rôle dans l'église de témoin. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vais très vite hein, cet après-midi. Je vous dis tout de suite, ça a demandé du temps. Et puis il me donne de temps en temps de ses nouvelles, parce qu'on n'est plus dans la même région. Il marche avec Dieu. Il est même arrivé à la retraite, dites-donc. Vous vous rendez compte? Alors que c'est un homme qui n'avait pas d'espérance de vie. Les médecins qu'il avait consultés dans l'état où il était, de clochard hélas lié à l'alcool à cette époque-là, lui avaient dit, de toute façon, vous n'irez pas loin. Il a été loin, parce qu'un jour il est entré, et que nous avons pu lui dire, il y a quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui veut te rencontrer. Ce n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, que votre pasteur pourrait vous citer, il y en a tellement. Qui sont comme ça dans notre monde aujourd'hui, des hommes, des femmes, que l'on a mis peut-être dans une catégorie d'ailleurs, incurables, impossible de les changer, et que plus personne ne veut vraiment s'attarder. Alors là, Jésus arrive, il se tient, il la regarde, et ce sentiment de transparence qui existe chez certains êtres humains, j'appelle ça un sentiment de transparence, c'est quand quelqu'un vous dit, bah, de toute façon, personne ne fait attention à moi. Je peux passer, je peux aller, je peux sortir, personne ne me voit. Plus personne. Ce sentiment terrible de souffrance qui fait qu'un être humain se replie sur lui-même, qu'un être humain se contracte en quelque sorte et n'attend plus rien, plus rien. Et les années s'écoulent. Le regard de Jésus, c'est de remarquer alors la situation de souffrance dans laquelle se trouve cette personne. Parce que quand Jésus a vu cette femme, il y a eu plus que l'image des 18 ans de souffrance. Il y a eu plus que ce corps courbé, brisé, tenu et lié, comme le dit la Bible, par cette situation. Il y a eu une parole. Il lui adresse la parole. Et j'imagine ce que cette femme aurait été déçue si Jésus lui avait dit « Ah, je vois que ça ne doit pas être drôle la vie pour toi, hein ?» Ah, mais prends courage, un jour ça changera. Il lui adressa la parole et il lui dit une chose qui est incroyable. Femme, tu es délivré de ton infirmité. » Mes amis, cette histoire va prendre un cours incroyable, catastrophique pour une autre personne. Une autre personne qui ne croit pas au bouleversement dans la vie. Une autre personne qui ne croit pas que des situations bloquées depuis longtemps puissent d'un seul coup changer en bien. C'est le chef de la synagogue. Mais pour cette femme, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est une parole qu'elle n'a jamais entendue, que jamais personne n'a osé proposer. « Femme, tu es délivrée. » Et à l'instant même, cette femme se redressa. Que dire ? Au-delà même du miracle auquel je dis, voyez-vous, ça c'est l'évangile. Les gens qui disent, oui, l'évangile du temps de Jésus. Non, c'est l'évangile aujourd'hui. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom qui guérit, qui agit aujourd'hui encore. C'est l'évangile éternel. C'est la bonne nouvelle. Et alors que Jésus donc dit à cette femme, tu es délivrée, il lui impose les mains et elle se redresse. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la parole que Jésus a proposée. Pour la première fois, le regard de Jésus qui a été porté et la parole qu'il a prononcée a valorisé cette femme. Elle se rend compte que quelqu'un lui a donné une valeur d'intérêt d'abord, puisque Jésus s'arrête sur elle, puisque Jésus ne s'intéresse qu'à elle. Et savez-vous que c'est exactement le plus grand signe de l'amour de Dieu, c'est qu'au milieu de nous, même s'il n'y en avait qu'un qui souffre depuis des années, aucune, c'est encore sur cette seule personne, et il peut y en avoir plusieurs, rassurez-vous, c'est encore sur cette seule personne que Jésus s'arrête, et qu'il veut entrer en communication. Cette seule personne. Alors que, à chaque fois qu'on est dans la souffrance, à chaque fois qu'on est dans l'incompréhension, dans l'incapacité de trouver une solution, on se sent effectivement toujours dévalorisé. Mais je dois vous dire, je serais trop responsable de ne pas le dire, il y a quelqu'un qui vous a donné une valeur extraordinaire et qui veut vous le dire cet après-midi. Et c'est en ce temps de Pâques qu'il y a quelqu'un qui peut vous dire « Tu as une valeur à mes yeux, comme le père qui attendait son fils et qui ne l'avait pas dévalorisé, mais qui continuait à l'aimer. Je t'ai aimé jusqu'à donner ma vie sur la croix, mon sang a coulé pour pardonner tes péchés. Tu as une valeur que tu n'imagines pas. Je dirais même que la valeur que Dieu donne à chacun d'entre nous en particulier, elle est inestimable. Et c'est peut-être la première fois que j'oserais vous le dire et que je veux vous le dire ou que d'autres pourraient vous le dire, tu as une valeur inestimable pour Dieu. Parce qu'un fils unique est mort pour que tu aies la vie, pour que ta souffrance soit effacée, pour que ta vie soit transformée, même si pour toi c'est 10, 15, 18 ou plus de souffrance. Une valeur que la parole et la communion que Jésus veut avoir avec toi à l'instant, dans ton cœur, te révèle en un instant. Oui, pour toi, j'irai jusqu'à la croix. Pour toi, j'ai prié. Pour toi, j'ai supporté. Pour toi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a aussi une chose quand même impressionnante dans cette histoire. Où vous la prenez pour un joli conte. On dit, oh, c'est extraordinaire, comme on peut raconter des belles choses dans la Bible. Personnellement, ça me gênerait de la voir comme ça. Parce que l'histoire qui est là, c'est pas un conte, c'est de la réalité. Et le regard de Jésus, ce qui est extraordinaire quand il voit cette femme, c'est qu'il est caractérisé, ce regard, par l'efficacité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il lui dit pas, tiens, on va essayer de te donner un siège pour que tu sois mieux installé hein, dans la situation. Non, le regard de Jésus, c'est l'efficacité. Et aujourd'hui, comme dirait peut-être beaucoup de populations un peu plus jeunes, il va droit au but. Quand quelqu'un est courbé, Jésus est là pour le redresser. Je dirais, alors allez plus loin, quand quelqu'un est lié par une passion, Jésus est là pour le délier de sa passion. Quand quelqu'un est lié par quelque chose qui sonde toute sa personnalité, qui la détruit progressivement, que ce soit la drogue, l'alcool et autre chose, Jésus est justement là pour ça. Il n'est pas là pour vous raconter une petite histoire, pour que le temps passe un peu plus vite. Il est là pour votre besoin. Il est là pour ta maladie, il est là pour tes liens en quelque sorte, parce que cette femme, c'est une maladie qui était dit à des liens, eh bien, il y a tellement de liens encore aujourd'hui. J'aimerais en sortir, mais j'y arrive pas.
J'ai essayé, j'ai fait des cures, mais j'y arrive pas. Jésus est justement là pour cela. Sa parole est une parole d'efficacité parce qu'elle va dans la direction de la plus grande force mauvaise. Et puis le regard de Jésus, il va se révéler au travers de, des réactions qui sont là. Il est libre de toutes les barrières. Parce qu'au moment où cette femme se redresse, vous imaginez l'ambiance dans la synagogue ? Les gens commencent à se retourner, c'est pas possible. Mais c'est elle qu'on a vue depuis 18 ans comme ça, regardez, elle est toute droite. Alors, vous êtes déjà pas mal en pays nantais, mais imaginez au Moyen-Orient. Dans ce pays de la Palestine de l'époque de Jésus, ça y est, c'est le bouleversement, c'est la révolution. Et il y a sûrement des gens pour crier, il y a des gens pour s'esclaffer, il y a des gens pour dire « on n'a jamais vu ça !» Et derrière tout ça, il y a un homme qui commence à se crisper. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que c'est que cette pagaille ? Vous vous rendez compte, Jésus est en train de guérir. Je me permets de demander, de poser la question. J'ai pas pensé à y demander avant. Est-ce que ça vous gênerait si Jésus guérissait quelqu'un cet après-midi ? Eh oui, je connais la réponse. Ça vous gênerait que Jésus fasse quelque chose qui dure depuis très longtemps, en un instant, cet après-midi ? Eh non. Vous voyez, vous avez beaucoup d'avance sur le chef de la synagogue. Vous êtes en progrès. Mais lui, il ne supporte pas. Alors, il a un raisonnement qui est quand même extraordinaire. Lui, il aurait été bien peut-être dans un syndicat, quelque part. Il y a 6 jours pour travailler. Sous-entendu, il y a 6 jours pour être guéri, mais ça suffit comme ça. Vous savez, c'est impressionnant de voir comment l'esprit et le cœur humain peuvent s'endurcir au point de ne plus avoir de compassion pour la souffrance. Plus rien. Plus rien. C'est froid. C'est stérile. C'est net. Et ça, c'est extraordinaire. La parole de Jésus, le regard de Jésus ne connaît pas de barrière. C'est-à-dire que même si des sanctions sont tombées médicales, psychologiques sur votre situation, sur votre cas, dites-vous, c'est un cas désespéré. Enfin, on vous l'a dit avec, en habillant un petit peu le mot, mais vous avez compris. Jésus est quand même là pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami. Il est là pour celui qui souffre. Il n'y a pas de barrière. Je ne peux pas vous en trouver, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'impossibilité. Tout est possible à celui qui croit. Mais le premier à le croire, cette parole, c'est Jésus. Et oui, il est là pour ça. Alors, non seulement le regard de Jésus, c'est de voir et de ne pas reconnaître aucune barrière, mais c'est d'aller plus loin dans le cœur de cette femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il va lui parler, il va lui dire « Bon, tu es délivré de ton infirmité », et un peu plus loin, il va décrire cette femme comme ayant compris son cœur. Car il dit « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan délayait depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Cette femme qui est une fille d'Abraham. Mais le chef de la synagogue savait bien ce que ça voulait dire, être fils ou fille d'Abraham. Le père de la foi, l'image, le modèle de la foi. Et Jésus dit, elle en était. C'était quelqu'un dont j'ai vu la foi. Les hommes ne la voyaient pas. Les hommes ne la voyaient plus. Oh, je peux vous dire que c'était une foi très, très, très fragile. C'était peut-être une foi qui disait, voilà, sûrement que Dieu existe, mais il ne peut rien faire pour moi. Et Jésus est venu lui dire, ta foi, maintenant je suis venu la réveiller. Je suis venu l'exalter, l'ouvrir. Parce que tu vas comprendre à quel point cette petite foi fragile, cette flamme... Et c'est vrai, c'est écrit, Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume, il n'éteint pas la foi fragile. Je sais que cet après-midi, vous pouvez avoir, depuis quelques minutes, je vous parle, ouais, lui, il croit, c'est facile pour lui, moi. S'il connaissait ma vie, rassurez-vous, même si votre foi a été rudement mise à l'épreuve par les difficultés, les souffrances de toutes sortes, Jésus voit l'étincelle. Et sur cette étincelle, il bâtit sa puissance et il guérit. Et ça, c'est aussi l'attitude extraordinaire de Jésus, son regard, et qui ne va pas dire, bon, dis donc, il faudrait peut-être que tu te mettes à croire quand même, toi, hein. Tu es d'un peuple, tu es d'une lignée, tu aurais dû être plus forte dans la foi. Non, tel que tu es, j'aime beaucoup cette parole, tel que je suis, je viens à toi. C'est-à-dire avec une étincelle de foi, avec un petit risque de foi insignifiant. Jésus dit, viens, comme tu es là, je prends. et tu vas voir ma puissance. » Et c'est ainsi que le regard de Jésus, enlevant les barrières, balayant aussi toute la foi, même la plus insignifiante, amène ces gens à regarder et à voir la puissance de Dieu. Jésus aura une parole terrible. Devant la réaction incrédule, il dira: vous savez prendre profit et soin de ce qui vous rapporte. Alors il va prendre deux images très simples, le bœuf et l'âne. Parce que ça vous sert. Vous avez besoin de votre bœuf, vous avez besoin de votre âne. Il vous rend service. Alors là, vous êtes plein de précautions. Attention, tout ce qui est à mon profit, tout ce qui me sert bien, tout ce qui me fait plaisir, faut pas y toucher. Mais devant la détresse qui ne te touche pas, tu restes indifférent. Vous savez que c'est quand même impressionnant de penser que là, dans cet auditoire, un par un, Jésus regarde. Un par un. Et quelqu'un qui dit: moi, de toute façon, jamais personne ne connaîtra mon vrai problème, mes vraies douleurs, mes vraies crispations, tellement moi, je suis à part. Jésus regarde cette personne et lui dit: mais voilà, c'est justement pour ce que tu as caché dans ta honte, dans tes peurs et dans l'incompréhension, dans le rejet que tu as ressenti tant de fois, c'est justement pour cela que je suis là maintenant. Et maintenant, j'aimerais vous dire, le Jésus qui porte ses regards aujourd'hui, j'ai dit qu'il était toujours le même. Alors nous voulons croire qu'il est le même dans son action. Le même parce qu'il n'y a pas de chose courbée qui ne puisse être redressée par Jésus. Il n'y a pas de vie en détresse qui ne puisse être touchée et rendue à la vie abondante, rendue à la joie et au bonheur de se relever. Et c'est pour cette raison que je voudrais maintenant prier pour quelques amis au milieu de nous, pour celui ou celle qui se sent tellement incompris, tellement seul, tellement isolé dans sa souffrance. Alors je vais vous le dire, vous êtes comme peut-être cette femme, au fond de vous, il y a une petite voix qui vous interpelle. Moi je sais d'où elle vient, ce n'est plus la mienne, c'est celle de Dieu. Par son esprit, Dieu vous interpelle, Dieu vous aime, Dieu a une parole adaptée à ta souffrance. Et cette parole, tu l'entends, il y a quelque chose quand même d'extraordinaire, c'est que cette femme, quand elle a entendu Jésus lui parler et lui dire « tu es délivré », eh bien, elle ne s'est pas enfuie, elle s'est laissée redresser par Jésus. Est-ce que tu veux, mon frère, ma sœur, ami, je peux me permettre d'aller vers cette familiarité maintenant, est-ce que tu voudrais accepter que Jésus te redresse, te bénisse, te guérisse de tes maux, peut-être même de ta vie très lourde, simplement d'une vie envahie par les mauvaises actions, envahie par les mauvais sentiments, envahie par le péché. C'est comme ça que la parole de Dieu le décrit, toutes ces mauvaises actions, le péché. Est-ce que tu accepterais maintenant d'être relevé dans la personne de Jésus? Je vais vous demander simplement de vous tenir maintenant dans le recueillement, dans la présence de Dieu. Je laisse quelques instants de silence. Mais je dis à celui ou celle qui a besoin de Jésus maintenant, c'est le moment décisif. Levez-vous, levez votre main simplement et dites: j'ai besoin de toi, Seigneur. Levez, voilà, votre main, Dieu la voit. Levez-vous même de votre place. Parce que nous allons prier ensemble, parce que Jésus est venu pour vous cet après-midi. Pas pour quelqu'un d'autre, pour toi, mon ami. Pour toi, jeune homme, jeune fille, homme, femme, qui que tu sois. Voilà, Jésus est pour toi. En cet instant, chacun fait la part qui lui revient devant Jésus. Parce que le regard de Jésus, il est incisif. Il vous transperce. Il vous voit tel que vous êtes. Et il est là maintenant, en disant: ne t'inquiète pas, il n'y a pas de barrière. Il n'y a plus de barrière. Peut-être que les hommes en ont élevé, mais moi je les ai enlevés. Et peut-être que ta famille a élevé des barrières, mais moi je les enlève. Parce que je t'aime tel que tu es. Nous allons prier pour que Jésus vous redresse dans la confiance, dans la foi, dans la libération du péché, dans la liberté retrouvée. Parce que c'est ainsi que Jésus commence et qu'il continue. Nous prions tous ensemble et que les amis qui sont là maintenant prient avec moi et se sont levés. Dieu les voit, les connaît et les bénit. Seigneur, Tu es en effet celui qui connaît parfaitement nos cœurs. Et tu les avais remarqués, ces amis qui sont là devant toi, dès le début. Dès l'instant où ils étaient en ta présence, sans le savoir, un regard éminent, fixe, se tenait sur eux. Et ce regard, il les aimait. Ce regard, il les comprend. Ce regard, il les sonde. Alors Seigneur, comme pour cette femme, je te dis merci, parce que tu peux dire, jeune homme, jeune fille, homme, femme, qui que tu sois, tu es délivré de tes infirmités, de ce qui fait ta honte, de tes passions, de ton péché, de ta souffrance physique ou morale, Jésus te délivre. Seigneur, nous voulons vraiment nous réjouir de ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Évangile en action, c'est que Jésus intervienne dans cet après-midi. C'est un grand message, celui de Pâques. Le Christ ressuscité, le Christ vivant, eh bien, il est là pour toi cet après-midi. Seigneur, maintenant, donne ta paix, donne ta joie, donne l'assurance du pardon, donne l'assurance de ces bras ouverts qui accueillent et qui accueillent le pécheur pour en faire un homme nouveau, une femme nouvelle. Donne, Seigneur, cette conviction dans les cœurs. C'est que quand Jésus commence à toucher notre vie, il ne la lâche plus. Il l'accompagne et il la guide pour en faire vraiment une vie nouvelle. Seigneur, à toi la gloire, parce qu'il y a là quelque chose d'important. Tu ne règles pas nos problèmes d'un instant, tu règles les problèmes de toute une vie. Tu effaces tout un passé et tu donnes tout un avenir. En Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur. Il est vivant, notre Rédempteur, et il est en train d'agir, et nous disons merci simplement. Gloire à ton nom pour la joie qui entre, la paix qui entre. Gloire à ton nom pour les réponses précises selon les besoins de ces âmes, car de toute façon, quand tu réponds parfaitement. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.